CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Le dernier rendez-vous politique de cette campagne départementale ce soir. Bonjour Kader Youb.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Avec comme invité Jean-Michel Baillette, candidat sortant au conseil général pour le moment du Tarn-et-Garonne. Bonjour Jean-Michel Baillette.
Bonjour et merci de m'avoir invité.
Bonjour Jean-Michel Baillette, donc président du conseil général de Tarn-et-Garonne, président du parti radical de gauche aussi. Et vous êtes donc candidat sur le canton de Valence avec Christiane Lecor. Et vous aurez donc face à vous Patrice Charles et Dominique Poinard du Front National, Philippe Sabatier et Joël Simonnet, Europe Écologie Les Verts, et enfin Pascal Hellul et Anne-Marie Morgades, Union de la Droite. Une première question, si vous permettez, Monsieur Baillet, une première question au sujet de l'attaque terroriste perpétrée hier en Tunisie, et on l'a appris, parmi les sept morts, deux morts de notre région, du Tarn-et-Garonne et un du Tarn. Une attaque qui aurait fait, selon Manuel Valls, 21 morts, dont 2 Français, 44 blessés, dont 7 Français. Votre réaction, Jean-Michel Baillet?
D'abord, ma solidarité avec les familles et ma compassion. Au-delà, j'évoque ce thème tous les soirs dans mes réunions. Depuis que la France a été frappée, la Norvège a été frappée, aujourd'hui la Tunisie, nous avons une offensive de l'obscurantisme et de la barbarie fondée sur une violence inouïe pour abattre ce que nous représentons, c'est-à-dire la civilisation, et en particulier en France, la République laïque. Nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays des Lumières. Et nous devons, nous Français, être au premier rang de ces combats contre celles et ceux qui veulent tout anéantir et nous ramener au Moyen-Âge et même pire. Donc oui, beaucoup de solidarité, mais aussi beaucoup de détermination. Détermination à lutter contre eux. Le président de la République a raison d'engager les forces armées françaises dans les secteurs où ils sévissent. Détermination aussi à nous battre sur des valeurs que j'évoque dans toutes mes réunions. Car c'est avec la responsabilité des familles, la responsabilité de l'école, la responsabilité de l'État qui doit ordre et sécurité à tout un chacun, que nous arriverons à vaincre. Et pour vaincre, il faut se rassembler, comme nous avons vu ce superbe mouvement d'une France qui, au-delà de ses divergences, de ses différences, s'est unie de manière magnifique pour manifester et dire non, vous ne nous mettrez pas à genoux. Nous sommes la République française, liberté, égalité, fraternité, ça signifie quelque chose. Voilà ma réaction à cela. Certains commençaient à dire c'est terminé, le 11 janvier c'est loin, mais ils sont ramenés à la réalité. Et tout un chacun doit bien réfléchir et se positionner sur ces sujets. Moi, c'est le combat de ma vie, la République laïque.
La République laïque, laïcité, toujours laïcité, c'est le socle du Parti radical de gauche, en tout cas ce que vous mettez toujours en avant. Est-ce que cette laïcité, elle a pas bon dos et que finalement tous ces mouvements qui ont eu lieu après les événements de Charlie, les Hebdo et de l'hypercachère à Paris, est-ce que ces événements, ben, finalement, ils sont disparus?
La laïcité, c'est la construction du vivre ensemble en société, qui dit que tout un chacun, dans le respect et la tolérance, est libre de choisir sa religion, est libre de choisir son engagement politique, est libre de choisir son engagement syndical, mais c'est la séparation de la sphère publique et de la sphère privée. Les églises, quelles qu'elles soient, n'ont rien à faire là-dedans, car tous ces fous furieux, tous ces barbares, ils se revendiquent d'un Dieu. Il faut séparer ceci et séparer cela. C'est le modèle de la République laïque française qui peut justement permettre de régler et de surmonter ces difficultés-là. Donc plus que jamais, la laïcité, elle s'oppose à l'antisémitisme, au racisme, au fanatisme, à l'intégrisme. C'est notre modèle de société. Et si vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, on prend toujours le nationalisme ou l'intégrisme religieux comme une cause à porter pour se livrer à ces exactions. C'est le modèle français qui doit être appliqué le plus largement, que les Français commencent à le défendre, et pour cela qu'ils se rassemblent la main dans la main. C'est plus important que nos différences.
Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut?
Je viens de vous le dire. Que pourrons-nous faire de mieux que d'envoyer les forces armées françaises intervenir partout où c'est nécessaire pour soutenir les gouvernements légitimes en place et lutter contre la barbarie? Ce qu'il faudrait, c'est qu'au-delà du gouvernement français, l'Union européenne s'engage également, car on parle beaucoup de la défense européenne. Mais la défense européenne, aujourd'hui, c'est la France. Un peu les Anglais qui participent, mais pas beaucoup, mais c'est la France qui porte non seulement le savoir-faire, tant mieux et bravo à nos soldats et à leurs officiers, mais c'est la France qui porte l'engagement budgétaire. Il y a donc urgence à ce que la défense européenne soit organisée de manière à ce que tous les États européens contribuent financièrement et contribuent aussi en fournissant des contingents pour aller combattre.
Ça, c'est la défense extérieure et la défense intérieure. Les premières mesures qui viennent de paraître les mesures pour l'antiterrorisme, est-ce qu'elles ne vous font pas craindre le fameux Patriot Act à la française ?
Nous en sommes loin. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé là-dessus pas plus tard qu'hier, mais en même temps, il faut savoir se défendre. Nos compatriotes ne peuvent pas demander davantage d'ordre et de sécurité, ils ont raison. C'est un des acquis de la Révolution, l'ordre et la sécurité pour tout un chacun. Mais il faut se donner les moyens, quand on est attaqué de manière aussi violente, par des fanatiques qui ne rêvent que de trouver la mort dans les attaques, et c'est cela qui est difficile à combattre, il faut se donner les moyens de les débusquer avant qu'ils ne puissent passer à l'acte. Donc, à tout moment et à toute violence, il faut trouver la réponse adaptée. Je crois qu'elle est adaptée dans le respect des libertés individuelles. Mais vous savez, on ne va pas mettre les Français en coupe réglée. Ils ne l'accepteraient pas d'ailleurs, et ils auraient bien raison.
Jean-Michel Baillet, est-ce que vous, au-delà des mesures annoncées par le gouvernement en termes de renseignement et de lutte contre le terrorisme, que vous donnez satisfaisite au gouvernement? C'est que vous avez un temps brandi la menace de quitter l'alliance avec le Parti socialiste. Est-ce que tout ça c'est enterré, fini, terminé? Est-ce que vous êtes devenu loyaliste plus que ne l'imaginait?
Je ne suis pas de ceux qui trahissent. Suivez mon regard. Et je les laisse face à leur conscience noire.
C'est Europe Écologie Les Verts. Hein.
Il en est, mais il en est qui trahissent, y compris en Tarn-et-Garonne, vous le savez. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et à qui je pense. Je ne suis pas de cela. Je suis loyal. Donc, je préside un parti de la majorité gouvernementale. Il va de soi que ça m'engage. Au-delà, je ne suis pas béni, oui. Moi, quand j'étais dans l'opposition, il m'est arrivé de voter des textes parce que je trouvais qu'ils étaient bons pour la France. Parfois aux grandes dames, d'ailleurs, de certaines de mes amis de l'opposition, et il m'arrive dans la majorité, il m'est arrivé souvent en tout cas, de voter contre des textes parce que j'étais pas d'accord, en particulier, et c'est ce à quoi vous faisiez allusion, concernant la réforme des collectivités territoriales. Je n'étais pas d'accord, je l'ai combattu, j'ai obtenu des résultats, puisque j'ai obtenu que l'on préserve les départements.
Mais enfin, juste sur le petit point que vous avez à peine esquissé de votre bouche, sur vous parliez des sénatoriales, est-ce que vous pensez, c'est une blessure qui ne se refermera jamais pour vous, est-ce que vous pensez que vous avez été sacrifié sur l'autel?
Je n'ai été sacrifié sur rien du tout.
Est-ce que vous en voulez quand même à vos amis?
D'abord, quand on fait la politique, il faut avoir le cuir tanné. Si les blessures sont éternelles, il y a longtemps que je serai cousu de toutes parts et même mort. Voilà. Bon, simplement, vous comme moi, on a bien vu ce qui se passait quand on voit les ennemis mortels irréconciliable d'hier, la main dans la main pour m'abattre, et que d'autres partis qui auraient dû me soutenir y donnent la main, je dis quand même que nous ne sommes pas dans l'orthodoxie politique, et que c'est un mauvais coup.
Il n'y a plus d'orthodoxie politique.
Il y a quand même des principes en politique. Oui. Il y a des principes. Je vous ai parlé de loyauté, je vous ai parlé d'éthique, je vous ai parlé de fidélité, je vous ai parlé d'engagement. Il y a des principes. Mais il en est qui bafoue ses principes et qui s'assied dessus. C'est ainsi. Bon, j'en ai été la victime. Dont acte. Maintenant, nous sommes autre chose. Nous sommes aux élections départementales.
Mais est-ce qu'il y aura un après sénatorial? Est-ce que...
Non, vous n'allez pas me parler sénatorial de la soirée. C'était il y a des mois. Nous sommes à 48 heures du scrutin départemental. Moi, je vous ai parlé des trahisons. Mais les trahisons, elles se poursuivent aujourd'hui. J'étais à l'actualité. Je ne suis pas quelqu'un qui avance en regardant le passé.
D'accord. Un petit peu de publicité et le rendez-vous politique avec Kader Youb revient dans un instant. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel Baillet.
CFM à Moissac, 90.7.
Environnement Multiservice, votre entreprise de travaux d'entretien d'espaces verts, tontes, taille de haies, d'arbres, d'arbustes, plantations, nettoyage de locaux, bureaux, immeubles, petits déménagements, collecte des déchets verts, gravats, archives, fer, bois, pour professionnels, particuliers et collectivités. Environnement Multiservice, tous travaux ponctuels ou à l'année, avec professionnels et particuliers, 416 avenue Jean Moulin à Montauban, 05 63 20 07 44, 05 63 20 07 44, études et devis gratuits.
Martifleur, votre producteur de fleurs à Bioul, est à votre service du lundi 8h au samedi 19h. Le printemps arrive chez Martifleur. Venez faire votre choix et profiter des promotions sur les plantes vivaces. Il y en a pour tous les goûts avec un grand choix de brume vert, de pensée et autres. Pour vous aider dans vos plantations, le meilleur, c'est Martifleur, votre producteur de fleurs entre Réalville et Bioul. Itinéraire fléché, renseignements sur marty-fleur.fr.
CFM à Montauban.
Montauban.
101.2. 101.2.
Le rendez-vous politique avec Kader Youb, l'invité aujourd'hui, Jean-Michel Baylet. Tout contre Baylet, ça pourrait être le slogan qu'on entend le plus souvent dans cette campagne, en tout cas dans la bouche de vos opposants, Jean-Michel Baylet.
J'ai l'habitude. C'était le cas au sénatorial, c'est le cas de nouveau. Nous étions dans la violence tunisienne. C'est le djihad contre Baylet. Bon, mais c'est pas nouveau. Ça dure depuis des années, des années, des années. Alors, j'arrive généralement à le surmonter. Bon, parfois.
Le djihad.
Mais oui. Écoutez, j'entends tout le monde. Il faut virer Baylet. Mais moi, je reste serein parce que je me dis, mais quelle pauvreté dans leur bilan, dans leur programme, pour n'avoir que ce seul slogan. Car moi, j'ai la fierté de me présenter avec un bilan et j'ai la fierté de me présenter avec un projet. Nous pourrions peut-être en parler.
On va en parler, mais juste un mot, si vous le permettez, M. Baylet, sur cette nouvelle organisation territoriale à laquelle vous avez pris part en supprimant plusieurs transferts. Toutefois, les députés ont fortement amendé le projet de loi qui était initialement présenté. C'est dû au lobbying de votre parti et de votre et du premier d'entre lui, semble-t-il, vous. Est-ce que c'est le cas?
Moi, je n'étais pas d'accord avec ces réformes, dont il faut quand même se souvenir qu'elles sont consécutives au fait que Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait abrogé les cantons et le conseil général pour lier la région et le département dans le conseil territorial. Par la suite, le conseil territorial a été, à son tour, abrogé. Il a fallu rouvrir le débat. Il était question de supprimer les départements. Je suis monté fortement au créneau, c'est vrai, y compris au prix du président de la République et du Premier ministre.
Dans la balance,
en mettant, oui, parce que le département et l'échelon de proximité, ça fonctionne bien. Et dans une période où nos concitoyens ont quand même quelques problèmes, je ne vois pas depuis Toulouse diriger une région dont je vous rappelle qu'elle ira désormais de Beaucaire à la Magistère et du Cantal à la Méditerranée et aux Pyrénées. Donc il faut quand même garder l'échelon de proximité parce que c'est sur cet échelon que l'on fait du bon travail, et le conseiller départemental, avec le maire, c'est l'élu de proximité. Donc j'ai mené ces combats, j'ai à peu près, avec d'autres, obtenu satisfaction, puisque non seulement le département perdure, mais je constate, quand on voit la loi in fine, qu'en dehors du problème des transports scolaires, le département garde la totalité de ses compétences. C'est bien pour nos concitoyens. Soyons des élus de proximité. Aménageons le territoire en proximité.
Justement, l'aménagement du territoire, M. Baylet, que comptez-vous faire? Quel est le sens de votre projet? Tout bouge. La région, nouvelle compétence. Comment articuler les compétences du conseil départemental dans ce magma, dans ce millefeuille territorial?
Il n'y a pas de millefeuille plus qu'ailleurs, mais c'est une formule à la mode. Vous la reprenez, tout le monde
l'a reprise. C'est pas une formule. EPCI,
oui,
conseil régional, conseil départemental.
Mais tout ça marche très bien comme parlementarité aujourd'hui, ça marchera très, très bien demain.
C'est pas péjoratif.
Vous m'avez posé la question de mes projets. Je crois qu'on est là au cœur de ce débat. Parce que c'est pas un combat, il est contre Madame Intel ou Monsieur Intel, c'est même au-delà d'un combat droite-gauche. Ça, c'est les élections présidentielles. Là, nous sommes sur des élections locales. Donc, il faut juger sur un bilan et des projets. Moi, mon projet, il est de continuer un aménagement harmonieux et équilibré du territoire départemental. D'autres projets sont beaucoup plus centrés sur Montauban au détriment des zones rurales. Je souhaite.
Ça sera votre combat, c'est-à-dire
décentraliser. C'est mon combat, finalement, parce que c'est là où est le clivage. On veut faire croire, vous parliez tout à l'heure tous contre Baylet, mais le clivage n'est pas là. Il est entre la vision, qui est celle de Madame Barrage en particulier, de dire Montauban et les villes, c'est là où il y a les habitants. Donc il faut que l'on mette tous les moyens du département dans ces secteurs-là. Et moi, je dis que je souhaite l'harmonie. Je souhaite l'harmonie entre les élus, comme je l'ai toujours fait à la tête du conseil général. Mes budgets sont votés par l'unanimité, 30 voix sur 30. Et je souhaite l'harmonie de la construction du département. C'est la dernière structure où l'on fasse de l'aménagement du territoire. Voilà. Nous n'oublions pas Montauban. Montauban Nous percevons 20 millions d'impôts par an sur Montauban. Nous en renvoyons 40, dont 29 sur le seul social. Mais je souhaite que les zones de Saint-Antonin, de Montaigu, de Beaumont-Domain, toutes les zones qui sont les plus fragiles et les plus lointaines, ne soient pas oubliées. C'est cela.
C'est-à-dire
la différence des deux projets. Un projet sur les villes, mon projet, il est sur les villes, mais aussi sur la ruralité. C'est-à-dire, je veux que ce département continue à se développer harmonieusement comme il le fait depuis quelques années. Je vous rappelle quand même, sans tirer la couverture à moi, mais que la main dans la main avec les maires, les présidents d'intercommunalité, les chambres de commerce, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, toutes les forces de vie de ce département, il y avait 185 000 habitants il y a 30 ans, il y en a 255 000 aujourd'hui. Mmh. Et l'INSEE prévoit qu'il y en aura 100 000 de plus dans 30 ans, c'est-à-dire nous aurons doublé en 50 ans. C'est unique en France. Et ces habitants, si choisissent le Tarn-et-Garonne, c'est pour quelques raisons. C'est parce que nous avons su aménager le territoire en aidant les agriculteurs, irrigation, jeunes agriculteurs, en créant la zone à Montbartier, à la sortie de l'autoroute de Montauban. 400 emplois déjà et 400 en discussion, en construisant des collèges. Nous avons construit 7, nous les avons tous rénovés, en ouvrant des CMS, en aidant les communes à rénover leur patrimoine. Même, et nous sommes les seuls de France, nous payons 50% pour les écoles primaires et maternelles. Là, nous avons du résultat. Et là, nous sommes dans le congrès, au-delà des grandes incantations et des grands slogans qui sont creux et qui n'ont servent à rien. Donc, nous avons un bilan et nous avons des projets. Ben, c'est de continuer à aménager. Nous sommes en train de faire le schéma directeur d'aménagement numérique, parce que tout un chacun a droit au numérique. Les grandes villes sont servies par Orange, bien sûr.
Donc, alors, là,
c'est fructueux, tandis que nous voulons le porter partout, et nous sommes en train de le faire. Et pour cela, nous
avons... La fibre était d'abord à la campagne, hein, avant d'être à Montauban.
Pardon?
Elle était d'abord à la campagne, la fibre, sur le Tarn-et-Garonne.
Les vrais aménagements qui sont faits, ils sont pas dans la campagne par Orange, ils sont dans les villes. Monsieur. Et ce que nous faisons, nous, c'est que nous voulons que tout soit équilibré. Pas de fracture numérique en Tarn-et-Garonne, pas de fracture entre ville et campagne en Tarn-et-Garonne.
Monsieur Baillet, sur
le... Ça nous différencie des autres.
Sur le RSA et l'APA, Brigitte Parejh souhaite, dans son projet, vous allez me dire si c'est possible ou pas, rapatrier ses missions dans le giron de l'intercommunalité ou de la commune. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça pourrait être une idée pour mutualiser les moyens?
Brigitte Parejh dit beaucoup de sottises et de mensonges. Je vous le dis.
Non, cette proposition,
Parejh. J'y viens.
Oui.
Premièrement, l'APA et le RSA, c'est compétence obligatoire des départements. Ça ne peut pas être transféré. Deuxièmement, comment voulez-vous que les maires des petites communes puissent se charger de gérer l'APA ou le RSA? Alors j'entends dire qu'on leur mettrait à disposition du personnel concernant qui partirait à l'autre bout du département. Mais c'est une chimère, tout ça est totalement utopique. Je n'ai jamais vu une telle démocratie. Ça n'est pas sérieux comme proposition. D'autant plus que gérer l'APA et le RSA avec un peu de distance du terrain, c'est quand même aussi avoir la certitude que les bonnes décisions et les décisions les plus objectives seront prises. C'est pas facile, hein, quand on est sur le terrain, de dire aux voisins, je te dis oui, je te dis non. Donc nos services font cela de manière remarquable, ici comme partout, et cette proposition-là est une proposition irréaliste et donc démagogique.
Et ces arguments, c'est l'efficience dans la distribution des aides et la lutte contre la fraude.
Nous sommes un des rares départements qui pratiquons les contrôles. Nos travailleurs sociaux, nos assistantes sociales vont bien vérifier que entre ce qui est déclaré et ce qui est la réalité, eh bien, il y ait cohérence pour les bénéficiaires de toutes ces aides. Et moi-même, j'annule l'an dernier 700 aides sous ma signature parce que nous avions débusqué des tricheurs, bien sûr. Mais de là à présenter tous ces citoyens en difficulté, en très grande difficulté. Vous savez, personne ne rêve d'être au RSA et personne ne rêve de vieillir trop pour avoir l'APA. Donc, de là à les fustiger, comme je l'ai entendu en disant il y a de la fraude, etc., c'est quand même totalement scandaleux. Il faut les respecter. Moi, je dis toujours, il ne faut laisser personne au bord du chemin. Si on a un doute, un aide, mais ne doivent être aidés que ceux qui en ont droit, parce qu'il s'agit d'argent public, et nous le montrons dans notre action quotidienne.
Brigitte Parejh, je vous accuse aussi d'avoir baissé l'APA, par exemple.
L'APA s'est fixée au plan national. Mmh. Mais vous savez, si vous voulez me faire parler de Madame Parejh, on ne va pas arrêter parce que l'APA, elle m'a même dit l'autre jour dans le débat que c'était pas pareil dans chaque canton. Non seulement c'est pareil dans chaque canton, mais c'est fixé au niveau national. Le Conseil général, ici comme ailleurs, est le bras armé de l'État pour la politique sociale, pour la politique solidarité. Donc l'État décide et nous appliquons Et nous finançons, malheureusement de plus en plus, et l'État de moins en moins. Donc dire des choses comme celle-là, c'est ou une grande incompétence et beaucoup d'ignorance, ou une mauvaise foi incroyable et beaucoup de mensonges. Je vous laisse le choix.
Heureusement que la loi est arrivée pour vous forcer à avoir des femmes au Conseil Général, Jean-Michel Baillet. Une seule femme depuis pas si longtemps que ça. Et comment vous imaginez demain les débats mixtes au sein du Conseil départemental?
Vous avez raison. Ce texte, avec lequel je n'ai pas toujours été d'accord sur certains points, au moins un niveau de s'avantage, c'est de féminiser le Conseil Général. Et je le pense d'autant plus que ma mère fut la première femme dans l'histoire de la République à présider un Conseil Général. C'était les années 70, il a fallu attendre jusque-là. Aujourd'hui, les choses vont changer, et c'est heureux. Et quand je vois ces candidates, parce que maintenant, on regarde un peu ce qui se passe les jeunes chez les autres, eh bien, je me dis que ça va donner vraiment du punch et un sang nouveau à l'Assemblée départementale. Il n'était pas normal qu'il n'y ait qu'une femme dans l'Assemblée départementale. Moi, je suis très satisfait. Et regardez bien les binômes. Moi, ma propre binôme, Christiane Lecor, elle est vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarn-et-Garonne. Elle est présidente de l'Association des commerçants artisans de Rives. Elle est première adjointe au maire de Valence. C'est une fille de dynamique. Et elle est en activité. C'est une commerçante connue et reconnue. C'est quelqu'un qui va apporter au Conseil général, à l'instar de beaucoup d'autres que je connais moins. Donc, ça, c'est le bon côté, la bonne face de la réforme, alors, et les conséquences heureuses.
Alors, pour mettre en place donc ce projet, hein, c'est-à-dire redistribuer les territoires reculés du département, il faut avoir une majorité, Jean-Michel Baillet, est-ce que vous, raisonnablement, pensez avoir à nouveau le conseil départemental présidence?
Moi, je suis un républicain radical, rationaliste et pragmatique. Donc, je prends les problèmes les uns après les autres.
Alors,
dans
de dire
trois jours, nous allons avoir le premier tour.
Oui.
Parce qu'il va se passer. Et puis, 8 jours après, le second tour. Verrons. Et puis, quelques jours après, le troisième tour auquel vous faites allusion. Bien sûr que je souhaite être majoritaire, puisque j'ai fait savoir mon intérêt pour continuer à présider le Conseil Général. Je pense qu'une majorité pourra se faire effectivement autour de
votre nom.
Comme à chaque fois. Fois, on me pose cette question.
Je vous pose cette question, parce que nous, on a reçu ici...
Attendez, laissez-moi aller au bout de moi. Chaque fois, on me prédit les plus grands malheurs, y compris la dernière fois, et je vois que les choses se passent convenablement. Après, il faut quand même attendre le choix des électeurs, parce que c'est bien beau de jouer ce petit jeu de poker, mais attendons de voir ce que vont dire les Tarn-et-Garonnais dimanche. Mais
justement, avant d'entendre dans les Tarn-et-Garonnais, hein, M. Baillet, on a entendu quand même ici, à votre place, Yvon Collin, Monsieur Pézier, le maire de Castelsarrasin, Brigitte Barège, qui ont tous souhaité, s'ils étaient élus, être président du futur conseil départemental. Ça fait beaucoup de concurrence. Pour vous, est-ce que vous arriverez, si vous êtes élu, à avoir cette majorité?
Ma réponse reste la même, que chacun ait de l'ambition, c'est bien légitime. D'abord, il faut que chacun commence par se faire élire. Et ensuite... nous verrons bien, donc je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui tire des plans sur la comète. J'ai confiance, quand je vois comment les choses se déroulent, je parle avec nos candidats, je ne doute pas que nous saurons dégager une majorité. Vous savez pourquoi?
Oui.
Au-delà de l'action politique, parce que moi je suis quelqu'un qui rassemble, j'ai toujours fédéré, je considère que le vivre ensemble est important, et regardez comment nous travaillons au Conseil Général, et regardez... comment ça se passe à la mairie de Montauban, où chaque conseil municipal dégénère dans des disputes à n'en plus finir, dans des affrontements. On exclut même les journalistes Manu Militari. Vous voulez que ce soit ça au Conseil général demain? Parce que chez nous, quand même, c'est plus calme, plus posé, plus respectueux, plus tolérant. Et cela, les conseillers généraux le savent, et ceux qui seront demain conseillers partantaux, ils le savent également. Donc, ils réfléchiront pour le choix de leur président, parce que c'est important, celui qui fera marcher la boutique pendant 6 ans.
Alors, pour Montauban et pour le Tarn-et-Garonne, il y a un formidable projet qui arrive et dont on ne connaît pas encore les tenants, les aboutissants, c'est la LGV. Personne, finalement, n'en parle, même si c'est pas une compétence directe du Conseil départemental. Il y a certainement un mot à dire pour le Conseil départemental. Qu'en est-il de la LGV? Viendra-t-elle? On susurre dans les milieux informés que les financements ne seraient pas présents, finalement, pour mettre en place cette arrivée.
Laissez susurrer les milieux généralement mal informés. Moi, je vais vous dire les choses. L'enquête d'utilité publique est terminée, le tracé est défini, Le conseil est engagé, puisque nous avons des financements à donner. Nous avons mis quelques conditions, en particulier, moi je n'accepterai pas, si je reste président de l'Assemblée, et je l'ai dit clairement, d'engager l'Assemblée sur des sommes très considérables pour financer cette ligne, qui verrait qu'aujourd'hui nous aurions moins d'arrêts à Montauban qu'hier. Donc il y a des conditions à poser, d'ailleurs Martin Malvy a pris la même posture, mais au-delà, le Conseil Général qui a la responsabilité de l'organisation foncière y travaille, je le suis personnellement, je le suis d'autant plus qu'elle passe à ma communauté de communes.
Vous y donc, croyez à ce formidable...
Moi je pense qu'économiquement c'est un avantage tout à fait considérable, que le Tarn-et-Garonne a le privilège d'avoir une gare, même si des problèmes d'accès se posent, que le Tarn-et-Garonne, en réalité, d'ailleurs, aura presque trois gares, parce qu'il y aura celle de Montauban, mais il y aura Toulouse qui sera prêt pour le sud du département,
et Agen
qui sera prêt pour le secteur de Valence d'Agen. Donc, bien sûr que c'est tout à fait nécessaire et que c'est un plus considérable pour nous, mais il n'y a pas de problème là-dessus, si ce n'est les problèmes liés... aux difficultés administratives. Travailler avec RFF, c'est pas non plus toujours facile. Et puis mon boulot, moi, c'est défendre les intérêts du Tarn-et-Garonne.
Il reste deux minutes, Jean-Michel Baillet.
Rémi, un mot sur Sivens, peut-être.
Oui, vous êtes un défenseur du premier projet de Sivens, Jean-Michel Baillet. Aujourd'hui, un projet revu à la baisse, plus petit.
Plus minimaliste.
Je vous parlais tout à l'heure d'ordre républicain. C'est un bel exemple. L'ordre a été rétabli. Enfin, et tant mieux. Sivens s'inscrit dans la politique d'irrigation que j'ai tracée en arrivant au Conseil général. Nous avons la SAU, la surface agricole utile la mieux irriguée de Midi-Pyrénées et la cinquième de France. Ça permet d'irriguer pour les agriculteurs, ça permet l'alimentation en eau potable, ça permet de garantir l'étiage des rivières et de ne pas voir les poissons mourir. À la suite de tous ces événements, il y a quand même eu un mort, c'est dramatique. À la suite de tous ces événements, le Conseil général du Tarn, en liaison avec nous, j'étais en discussion permanente avec Thierry Kersonac, le président du Conseil général du Tarn, nous avons décidé, effectivement, de réduire un peu, de redimensionner, et nous verrons où ce sera construit, à mon avis, ce sera construit sur le site où les travaux ont déjà été commencés. La raison l'emporte enfin, mais c'est une partie de la politique d'irrigation et d'aide à l'agriculture que mène le Conseil général depuis longtemps. C'est reconnu, d'ailleurs, vous avez vu que l'autre jour au Marché-Gard, je ne sais pas si vous y étiez, 700 agriculteurs, 3 chambres d'agriculture, 3 départements, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne. Le seul qui a été complimenté, c'est moi, et le seul Conseil général, c'est moi. Tous les autres, comme on dit, dans les terres de rugby à Saint-Pierre, qui s'en sont pris plein la gueule.
Merci, Jean-Michel Baillet, d'avoir accepté notre invitation ici et d'avoir participé au dernier rendez-vous politique de CFM.
Merci à vous.
Enfin, dernier rendez-vous politique avant les élections départementales, puisque c'est dimanche que vous irez voter. Il y aura donc un autre ou d'autres rendez-vous politiques entre les deux tours. Nous invitons d'ailleurs les responsables politiques...
Peut-être Jean-Michel Baillet.
Peut-être Jean-Michel Baillet, pourquoi pas, à débattre sur notre antenne. Voilà, l'invitation est lancée.